Vous êtes sur RTL.
Place à RTL Soir avec vous Marion Calé et Julien Cellier. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir, Céline.
Bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir. Deux heures d'actu pour tout savoir, tout comprendre. Et à la une, nouveaux embouteillages à la pompe. Une station sur cinq manque de carburant en France.
Et pour cause, ruée ces dernières heures, les ristournes de l'État et de Total sont revues à la baisse après-demain.
À suivre aussi ces révélations effarantes un an après la mort de 27 migrants dans la Manche.
L'enquête accable les secours. Le récit des appel téléphonique au secours des réfugiés et glaçant. Maître Daoud, avocat de l'association qui a porté plainte, sera notre invité dans ce journal. L'actualité également des plateaux télé à la justice, la bataille Boyard-Hanouna, le député insoumis a insulté la semaine dernière, va porter plainte. Et puis au G20 en Indonésie, l'espoir de relancer le dialogue sur l'Ukraine et notamment avec Moscou. Entre coup de fil et pression, l'Elysée veut tenter le coup.
À 18h15, nous fêterons les 30 ans de Titeuf. Son papa, Zep, sera avec nous. 30 ans, pas une ride pour l'écolier, mais plus de 20 millions de BD vendus. 18h30, les dessous de la Coupe du Monde. Nouveau rendez-vous, Deschamps appelle un attaquant à la dernière minute en plus. Est-ce que cela signifie que Benzema est incertain? 18h40, on va défaire le monde. L'info autrement avec Cyprien Sini et toute l'équipe. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Menu.
Ce soir, on va défaire le statut juridique des députés. Vous allez découvrir qu'insulter un représentant de la nation peut vous coûter plus cher que d'insulter votre voisin. Au menu également, le grand retour des maths et la route du Rhum. Comme si vous y étiez, ça va secouer.
On va refaire le monde à 19h15 avec Éric Brunet et Aurélie Herbemont. Et puis on va refaire le temps tout au long de l'émission avec Louis Baudin. Bonsoir Louis.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Tendance pour demain?
Eh ben de la pluie, hein. Ça va être une perturbation par jour au cours de cette semaine.
À tout à l'heure.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
Alors apparemment, c'est une date que les automobilistes ont bien retenue. À partir de mercredi, après-demain, faire un plein coûtera un peu plus cher.
Puisque la ristourne sur les carburants diminue, hein, l'aide de l'État baissera de 30 à 10 centimes et chez Total de 20 à 10 centimes. Le résultat, c'est que l'on renoue avec des stations à sec, plus d'une sur cinq privées d'au moins un carburant.
Donc retour aussi des files d'attente à la pompe. Bonsoir Frédéric Perruche.
Bonsoir.
Vous en avez fait le constat, l'expérience pour RTL dans une station Total de Lyon, près de Gerland.
La file de voitures s'étend sur plusieurs dizaines de mètres sur une des voies du Grand Boulevard à tel point qu'un employé de la station-service vient régler lui-même la circulation devant les 8 pompes où l'on se presse pour remplir son réservoir à bloc.
Alors là, j'ai payé 70 euros. J'arrive de la Haute-Savoie, donc effectivement, je profite des prix réduits là pour pouvoir faire mon trajet. 1,59 au litre, là, je crache pas dessus.
Christian profite lui aussi de ces dernières heures à bas prix.
En sachant que là, je viens de mettre 63 litres, 64 litres, ça me fait une remise par rapport à demain, plus de 30 euros. Là, j'ai fait le calcul.
Ça fait une nuance.
Exactement.
D'autres font le plein et même plus.
Je suis une exprès pour mettre de l'essence. Là, je suis sortie exprès du travail pour ça.
Parce que demain, plus 30 centimes à partir de minuit, ça...
Ça fait mal au porte-monnaie.
Vous avez même rempli des bidons.
Bah ça, c'est pour ma fille parce qu'elle n'a pas eu le temps de venir.
D'accord.
Alors, je lui ai pris un peu de réserve pour elle aussi.
Et dès demain soir minuit, dans cette station Total, le litre va augmenter de 30 centimes. Pour approcher les 2 euros pour le gasoil.
Voilà, et les remises restantes de 10 centimes seront maintenues ensuite jusqu'au 31 décembre. Il a été traité d'abruti, de bouffon, de tocard, entre autres, par Cyril Hanouna dans son émission jeudi dernier. L'ancien chroniqueur de Touche pas à mon poste, de devenu député, Louis Boyard, contre-attaque aujourd'hui.
L'insoumis a annoncé en conférence de presse à l'Assemblée qu'il allait porter plainte contre Cyril Hanouna.
Qu'on soit député ou non, un présentateur n'a pas à insulter quelqu'un en direct pour avoir critiqué le propriétaire de sa chaîne. Or, c'est justement le problème. Sur TPMP, il est devenu moins grave d'enfreindre la loi que de critiquer Bolloré. Cette impunité et les méthodes qui vont avec doivent cesser. C'est pour cette raison que j'ai décidé de porter plainte. Cyril Hanouna a déclaré a posteriori que cette séquence était la preuve que l'on pouvait tout dire sur cette émission. Je le mets au défi. Cyril Hanouna est-il prêt à organiser un débat sur TPMP, au sujet des agissements de Bolloré en Afrique.
Le défi lancé donc par Louis Boyard qui va porter plainte contre Cyril Hanouna pour injure publique.
RTL Soir.
Un record Et un accord maintenant. 40 000 migrants ont traversé la Manche cette année. Conséquence, Paris et Londres renforcent leur coopération.
Le Royaume-Uni augmente le montant de son chèque. En contrepartie, la France augmente de 40% ses effectifs de forces de l'ordre sur les plages. Plus de 200 personnes ont perdu la vie dans de telles traversées depuis 2014.
Avec ce drame symbolique, il y a un an, en pleine nuit.
Ces 27 corps repêchés, dont celui d'une fillette, naufrage qui avait provoqué une vive émotion. Et 12 mois plus tard, on en sait davantage sur cette soirée d'horreur, l'enquête accable les secours.
RTL a pu prendre connaissance du compte-rendu des communications entre le canot pneumatique des migrants et le cross. Et ce compte-rendu est glaçant. Les appels à l'aide ont été multiples, répétés Thomas Proutot.
Oui, les enquêteurs ont répertorié plus de 15 appels au secours entre 1h et 5h du matin. 15 sans compter les appels raccrochés. Dès 1h du matin, un migrant demande de l'aide. Et tout de suite, les opérateurs du cross français vont dire deux choses. Un, les secours vont arriver, mais il y a d'autres embarcations. Deux, vous êtes en eau britannique. Appelez aussi le 999, le 999. 3h plus tard, à 4h du matin, aucun secours n'est en vue. C'est fini pour nous. On est en train de mourir, supplie un des migrants. L'opératrice demande alors une manipulation sur la messagerie WhatsApp qui permet de localiser un appel au secours précisément et renvoie une nouvelle fois vers les secours anglais. La conversation est ensuite coupée. Et là, il y a cette phrase terrible lâchée en aparté par la militaire du cross, mais enregistrée. Ah bah, je ne t'entends pas, tu comprends pas, tu seras pas sauvé, t'as les pieds dans l'eau, je t'ai pas demandé de partir. Un bateau de secours français est pourtant dans les parages, mais n'atteindra jamais le canot passé en eau anglaise. La conversation s'arrête là. On ne sait pas ce qui s'est passé du côté britannique. L'enquête le dira. À 13h49 le lendemain, un pêcheur français repêche les 27 cadavres de migrants. La préfecture maritime contactée par RTL souligne ne pas avoir connaissance de l'enquête à ce stade, mais affirme que quel que soit le ton adopté, l'objectif des équipes du cross est toujours de sauver un maximum de personnes.
Merci Thomas. Invité de ce journal maintenant, Emmanuel Daoud, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes l'avocat d'Utopia 56, l'association d'aide aux réfugiés qui a porté plainte dans ce dossier. Premier appel donc 1h48, dernier appel d'un migrant en train de se noyer 4h16. Il s'écoule donc 3h30, aucun bateau de secours n'est envoyé. La responsabilité des secouristes est engagée pour vous.
J'observe que, contrairement à ce qui avait été dit par la préfecture maritime il y a quasiment un an, l'embarcation a bien été localisée. Le cross et les différents opérateurs du cross ont été capables de le suivre pendant plusieurs heures, au point de considérer que puisqu'il se rapprochait des eaux territoriales anglaises, il ne fallait pas intervenir. Moi, ce que je relève, c'est qu'on avait les moyens d'éviter cette tragédie humaine. Les opérateurs ont eu la perception du danger et du péril dans lequel se trouvaient ces migrants, ces femmes, ces hommes et ces enfants, et que rien n'a été fait. Alors peut-être que l'on a appliqué de façon, je vais le dire ainsi, peut-être de façon triviale, de façon stupide, des consignes de la préfecture maritime.
Dans ces coups de fil, on entend des cris, on entend des pleurs, mais aussi ces mots donc, d'une secouriste qui font froid dans le dos. Thomas le soulignait, ah bah t'entends pas, tu seras pas sauvé, je t'ai pas demandé de partir. C'est d'un cynisme absolu.
Oui, mais je vais pas accabler cette dame. La tension est extrême. Évidemment, ces mots tels qu'ils sont reproduits sont glaçants. On a l'impression que on ne s'adresse pas à des êtres humains, qu'il n'y a plus d'empathie, qu'on gère les flux. Voilà, on gère les flux. Il y en a beaucoup. Il y a trop de bateaux. Il y a trop de migrants. Et on fait ce qu'on peut, mais on fait surtout pas le nécessaire pour les sauver. On ne peut plus entendre. On ne peut plus accepter la faute de moyens. Il y a en droit pénal des fautes de négligence, des fautes d'imprudence, des mauvaises évaluations, une faute de moyens, une désorganisation. Et je rappelle que la convention bilatérale franco-britannique impose, non pas suggère, mais impose aux secours, qu'ils soient anglais ou français, d'intervenir, y compris dans les eaux territoriales de l'autre pays, si une embarcation est en péril.
Merci Emmanuel Daoud, avocat d'Utopia 56, d'avoir réagi ce soir sur RTL, d'avoir été avec nous. Bonne soirée.
Bonne soirée, merci à vous.
Merci. Et votre journal va se poursuivre dans un instant dans RTL Soir avec tout autre chose. Les Bleus prêts à défendre les droits humains au Qatar. À tout de suite.
Julien Cellier.
RTL Soir jusqu'à 19h15.
RTL Soir.
Julien Cellier, Marion Calais.
18h10, la suite de votre journal dans RTL Soir. Et donc, les joueurs de l'équipe de France de foot ne resteront pas totalement silencieux sur la question du non-respect des droits de l'homme au Qatar.
Pas de brassard LGBT, mais Au moins un geste promis, c'est le capitaine Hugo Lloris qui l'a annoncé tout à l'heure à Clairefontaine où les joueurs se sont retrouvés aujourd'hui.
On ne peut pas rester insensible à ces sujets-là. Je ne vais pas le dire ou l'annoncer maintenant, mais quelque chose sera fait dans quelques jours, heures, on verra. Le football a une place assez importante dans la société et on en demande de plus en plus aux joueurs. Mais je crois ce qu'on nous demande avant tout, c'est d'être performant sur le terrain. Après, ensuite, en dehors, chacun est libre de s'exprimer, chacun est libre de défendre ses opinions. Maintenant, une Coupe du Monde, l'opportunité se présente tous les 4 ans. On n'a pas envie de passer à côté. Mais encore une fois, je le répète, c'est des sujets sur lesquels on ne peut pas rester insensible et ça fait déjà quelques temps que certains de mes partenaires et moi, on évoque ce genre de sujet.
Hugo Lloris au micro RTL de Philippe Sansfourche des Bleus qui s'envoleront mercredi avec nouveauté du jour, le défenseur monégasque Axel Disasi appelé pour remplacer le Parisien Kimpembe.
Et avec Marcus Thuram, fils de 26e joueur du groupe dont la convocation pourrait permettre aussi de pallier d'éventuelles blessures en attaque alors que Karim Benzema ne semble toujours pas au mieux. On y reviendra tout à l'heure dans les dessous de la Coupe du Monde à 18h30.
Et puis après le tracé du marathon sur les traces de la marche des femmes en 1789, la nouvelle référence républicaine et révolutionnaire des JO 2024 avec la présentation des mascottes, les friges, des bonnets phrygiens transformés en petits personnages rouges, basket aux pieds.
18h, 19h15,
RTL Soir.
Au G20 en Indonésie, un absent omniprésent en la personne de Vladimir Poutine, mais l'Elysée veut le convaincre de revenir à la table des négociations au sujet de l'Ukraine.
Bonsoir Bénédicte Tassard.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Envoyé spécial de RTL pour suivre ce G20. La présidence française l'a d'ailleurs fait savoir. Emmanuel Macron entend maintenir le lien, le contact avec le président russe.
Oui, Paris estime que Poutine est de plus en plus isolé, mais qu'il reste lucide sur ses dernières défaites, y compris à Kherson. Ce qu'il laisse paraître n'est pas ce qu'il pense. Alors maintenant, c'est au chef du Kremlin de choisir. Soit il continue d'affaiblir la Russie en poursuivant cette guerre, soit il vient à la table des négociations. C'est pour cela qu'il y aura encore des coups de fil entre Paris et Moscou, c'est ce qu'indique l'Elysée.
Voilà, nouveau coup de fil, donc Paris-Moscou à venir. Et Emmanuel Macron va aussi profiter de la présence des alliés de Moscou dans ce G20 pour faire pression, Bénédicte.
Il a rendez-vous tôt demain matin avec le leader chinois Xi Jinping. Objectif, toujours selon l'Elysée, lui dire « ton intérêt » comme le mien, c'est de faire pression sur la Russie. Ce sera le même message délivré au Premier ministre indien Modi après-demain. La crainte de Paris, c'est que cette guerre ne plonge encore plus les pays du sud de la planète dans une crise déjà provoquée par le Covid et le réchauffement climatique. La colère est en train de naître. Il faut éviter les divisions au G20.
Bénédicte Tassard, envoyé spécial de RTL, poursuivre donc ce G20 en Indonésie. Et concernant l'Ukraine, justement, le déplacement de Volodymyr Zelensky à Kherson, ville reprise la semaine dernière, une prise qui marque, selon lui, le début de la fin de la guerre.
Kherson, où les renseignements ukrainiens assurent avoir arrêté un militaire russe déguisé en civil, alors que les autorités redoutent justement que des soldats de Moscou soient encore présents en ville.
Il fête ses 60 ans cette année. Le secrétariat du Père Noël reprend du service demain et jusqu'au 20 décembre. Le bon vieux courrier a rédigé en famille, lettre sans timbre sur laquelle il suffit d'inscrire Père Noël. On peut aussi être un peu plus imaginatif. Et puis le courriel sur le site père-noël.laposte.fr.
C'est bien noté. Merci beaucoup Marion. Louis avait demandé de la pluie au Père Noël. Le vœu est exaucé, cher Louis.
Exactement, je suis servi et je vais l'être tout au long de cette semaine. Aujourd'hui, on a eu une première perturbation qui a surtout été active d'ailleurs au sud de la Loire, un petit peu moins au nord, où les averses sont restées plus limitées. Il y a beaucoup de pluie comme prévu dans le Languedoc. Demain, voilà une autre, celle d'aujourd'hui va s'évacuer la nuit prochaine. Elle arrivera comme celle d'aujourd'hui par l'Atlantique le matin. Elle sera des Pyrénées à l'Île-de-France et à la frontière belge en milieu de journée. Et elle arrivera sur les frontières de l'Est dans la soirée ou la nuit suivante, avec toujours beaucoup d'activité. Ça donnera un petit peu de neige dans les Alpes à partir de 2000 mètres. Et puis le vent se renforcera sur le littoral de la Manche jusqu'à 70, voire 80 km/h. Les températures, comme aujourd'hui, entre 7 et 10 degrés le matin dans le nord, 10 à 14 dans le sud, et l'après-midi, 12 à 14 degrés dans la moitié nord, 15 à 19 dans la moitié sud.
Merci Louis. Toute petite pause dans RTL Soir, et puis l'homme aux 20 millions de bandes dessinées vendues sera notre invité. Nous recevons Zep, le papa de Titeuf. Titeuf qui fête ses 30 ans déjà avec un superbe livre d'or. À tout de suite sur RTL.
RTL Soir.
Julien Cellier.
Julien Cellier,
l'invité d'RTL Soir.
18h19, bonne fin de journée avec RTL Soir. Nous allons fêter un anniversaire maintenant avec Monique Younes, notre spécialiste bande dessinée. Bonsoir Monique, nous recevons maintenant Zep, le papa de Titeuf. Bonsoir Zep.
Bonsoir.
Titeuf, succès mondial avec plus de 20 millions d'albums vendus, traduits en 25 langues. Et pour fêter ses 30 ans, parce que oui, déjà 30 ans, ce livre d'or aux éditions Glénat, alors un vrai livre d'or pour ceux qui nous regardent en vidéo, qui brille vraiment depuis quelques jours en librairie. 30 ans de Titeuf, 160 pages de croquis, d'anecdotes sur l'univers, les premiers pas de votre petit écolier à la mèche blonde. Votre premier album, il date de 1993. Moi, j'avais 7 ans en 1993. Je me souviens très bien l'avoir lu à la bibliothèque. Et aujourd'hui, ce sont mes gamins qui vous lisent. Donc, c'est quand même une fierté, non, pour vous, d'avoir su accompagner comme ça plusieurs générations.
Ah, bah, à fond, c'est ce qui est le plus beau, en fait. C'est de voir aujourd'hui, en dédicace, des jeunes lecteurs comme vous qui viennent avec leurs enfants et qui me demandent une dédicace pour leurs enfants. Et je trouve très, très, très touchant, ça, d'avoir à la fois la fidélité des lecteurs et puis d'avoir déjà plusieurs générations qui sont succédées, parce que quand Titeuf a démarré, le premier album en 93, il était surtout lu par des fans de BD qui étaient plutôt des gens adultes. Donc des gens qui ont aujourd'hui un certain âge et certains sont toujours lecteurs, donc c'est d'être accompagné par autant de personnes différentes, c'est quelque chose de formidable.
Il n'a pas vieilli en 30 ans, votre héros, il n'a pas pris une ride. Et vous, Zep, parce que vous aviez 25 ans au début de l'histoire. Mais est-ce que vous avez réussi à garder cette part d'enfance en vous grâce à Titeuf ?
Oui, je pense que c'est Titeuf qui l'a entretenu, en fait. C'était pas... jamais j'aurais imaginé... déjà, j'imaginais pas faire une série quand j'écris ce personnage. J'espérais qu'on... J'ai senti qu'il se passait quelque chose, que c'était un projet plus libre, plus original que les autres que j'avais fait. J'espérais qu'on me donne la chance de faire un album. Et quand le premier album a été signé, j'ai harcelé mon éditeur pour qu'on m'en laisse faire un deuxième. Et on m'a dit, ce qu'on m'a le plus dit au début de ma carrière, c'est patience, patience, patience. Attends de voir si ça intéresse les gens. Et j'étais persuadé que cette porte sur l'enfance allait se refermer. Et qu'un jour je me réveillerais et que j'aurais plus d'idées. Je pensais que ça allait durer quelques semaines ou quelques mois. Et non. Donc je suis un peu rassuré aujourd'hui.
Donc avant de harceler votre éditeur pour un second livre, vous aviez cherché un éditeur pour le premier. Et oui, c'était pas évident d'ailleurs. Et vous dites effectivement dans ce livre du 30e anniversaire que vous avez tenté de proposer un Titeuf super-héros.
Oui, alors j'ai retrouvé, en fait, dans ce livre, j'ai plongé dans mes archives, j'ai retrouvé des choses dont j'avais même oublié l'existence, dont les lettres avec le premier projet Titeuf que j'avais envoyé aux divers éditeurs et rédacteurs en chef, et un projet de super Titeuf. J'avais complètement oublié ce truc. C'est-à-dire que comme tout le monde m'a refusé.
Heureusement que ça n'a pas fonctionné, sinon on n'aurait jamais connu le Titeuf tel qu'on le connaît aujourd'hui.
Bah heureusement, oui. C'était pas terrible comme idée. Mais enfin, vu le refus général, je me suis dit, j'essaye vite une pirouette de dernière minute, je lui rajoute une cape et je fais des histoires de super-héros, de gamins super-héros. Ça n'a pas intéressé beaucoup plus les éditeurs. Donc c'est le Titeuf original qui a fini par être publié.
Et donc en fait, Titeuf, il est né, on l'apprend dans ce livre, parce qu'un jour vous étiez à la fenêtre de votre atelier au-dessus d'une cour d'école et vous entendiez les enfant plus bas crier, je cite, « T'es un pourri du zizi à la crotte de nez ». C'est ça qui vous a donné l'envie d'en avoir envie ?
C'est ça, c'est la poésie qui m'a refait plonger dans l'enfance.
Mais alors, est-ce que les enfants avaient une crête ? Finalement, comment est née cette crête de Titeuf ?
Cette crête, c'était j'avais trouvé ce personnage. Moi, j'avais toujours un souci pour dessiner les cheveux. Je trouvais que c'était laborieux de dessiner des cheveux sur un personnage de BD, quand on sait qu'on va devoir le dessiner des centaines, des centaines de milliers de fois. Donc j'essayais toujours de trouver une sorte de gimmick graphique pour symboliser les cheveux. Alors mes personnages avaient un chapeau ou étaient chauves. Et j'avais trouvé ce petit bonhomme qui jouait dans un groupe de rock. C'était un projet que j'avais fait quelques jours ou semaines avant. Et j'ai commencé à dessiner cette histoire de Titeuf. Donc j'ai dessiné la cour d'école qui était sous mes fenêtres. J'ai dessiné mes copains d'enfance, Hugo, Manu, Nadia. Et au moment de me dessiner, moi, je me suis dit, je vais avoir trois anecdotes à raconter. Et après, je vais être à court. Donc, il vaut mieux que je mette un autre moi-même pour raconter tout ça. Comme ça me permettra aussi d'allerger un peu la thématique de l'enfance. Et puis, j'ai pris ce petit bonhomme qui avait une mèche sur la tête et qui avait une tête en forme d'œuf. Je l'ai rajouté au groupe, il avait une tête d'œuf, les autres lui ont dit salut Titeuf. Et voilà, c'est parti. Je ne pensais pas du tout que j'aurais encore à raconter cette histoire aussi longtemps après. Et
vous avez conscience de ce que vous apportez aux enfants parce que vous leur avez appris pendant 30 ans le second degré, l'humour, l'amour, à mettre un pied dans la préadolescence, comment on fait les bébés. C'est un peu d'utilité publique en fait, Titeuf.
Ben moi, j'ai fait les histoires que j'aurais aimé lire. Donc j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de sujets assez complexes, assez anxiogènes quand on est enfant, notamment des sujets autour de la puberté, de la sexualité, en tout cas cette puberté qui est annoncée et qui va nous tomber dessus. Dans le cas de Titeuf, elle ne tombe jamais dessus, mais ça fait 30 ans qu'il l'attend, de pied ferme. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on se racontait, qu'est-ce que j'aimerais entendre qui me fasse rire à propos de ça. C'était aussi le postulat du guide du zizi sexuel, c'était de raconter cette histoire de la sexualité qui va nous tomber dessus, mais de manière plutôt ludique et marrante, plutôt que quelque chose qui est souvent un peu sévère, et puis sous l'angle plutôt de la prévention, alors, des dangers.
Vous parlez du guide du zizi sexuel, et j'ai découvert en lisant votre livre que le désormais ex-président du Brésil, depuis quelques jours, d'extrême droite, Jair Bolsonaro, avait brandi à la télé votre album en vous accusant de pervertir la jeunesse brésilienne. C'est assez improbable, ça.
Ouais, c'était moi-même, j'étais assez stupéfait de voir ça. C'était le soir de... Enfin, c'était pas le débat télévisé, parce qu'il avait refusé le débat avec son adversaire. Il était venu seul sur le plateau du 20h brésilien. Et il arrive et il sort de sa veste le guide du zizi sexuel en édition brésilienne. Et les journalistes, déjà, on voit qu'ils sont un peu... Ah non. Parce que c'était un running gag pour lui. C'est-à-dire qu'il, régulièrement, sur les réseaux sociaux, il brocardait le guide du zizi sexuel en accusant la gauche de le balancer par avion sur les crèches pour forcer les enfants à lire de la bande dessinée. Enfin, il y avait tout un discours complètement hallucinant. Je ne sais pas pourquoi il s'est focalisé là-dessus.
Il a fait une fixette sur vous, en fait.
Mais déjà 2 ans avant son élection.
Mais est-ce que vous en avez beaucoup vendu après cette pub?
Avant, pas beaucoup. Ça n'a pas été... La bande dessinée au Brésil, ce n'est pas un phénomène comme chez nous. C'est beaucoup moins populaire. Et le guide du sexuel, à l'échelle du Brésil, c'était dérisoire. Et les gens ne savaient pas ce que c'était. Mais après Bolsonaro, tout le monde savait ce que c'était.
Ouais. Bah, écoutez, Zep est célèbre au Brésil. C'est formidable. Alors, vous êtes un fan de musique rock, Zep. Et pourtant, la musique n'est pas trop présente dans Titeuf. Vous le dessinez parfois jouant de la guitare, comme vous qui êtes musicien. Vous composez aussi des chansons. Votre groupe Martinez et Zep a déjà sorti plusieurs singles, dont Baby Please, dont le clip est génial. On va écouter. Valérie Martinez, que vous accompagnez à la guitare. Vous racontez sur Instagram le journal de votre album musical, le nouveau, qui va bientôt sortir. Est-ce que Titeuf trouvera sa place dans ce nouveau projet ?
Oh, je sais pas, il est déjà tellement partout dans ma vie. Ça me semble difficile de toute façon de faire plus de 2 pas sans Titeuf, parce que même quand je travaille sur un autre projet, un autre album, il se passe pas une semaine sans qu'on me demande quelque chose avec Titeuf. Donc, pour finir, il fait partie de ma vie et j'ai de plus en plus de mal à imaginer vivre sans lui.
Et là, vous dites, je veux faire de la musique et je ne veux plus entendre parler pour quelques temps.
Mais en même temps...
Pendant 3 jours, quoi.
Voilà.
Pendant 3 jours, et puis je sais que quand j'y rêve quelque part pour la musique, on va me parler de Titeuf, donc...
Bah merci Zep d'avoir été ce soir notre invité pour fêter les 30 ans donc de Titeuf qui vous accompagne au quotidien avec ce très joli livre d'or en librairie. Merci beaucoup. On va marquer une petite pause et puis RTL Soir va continuer de vous surprendre. Les dessous de la Coupe du Monde dans un instant, votre nouveau rendez-vous à 6 jours du coup d'envoi de la compétition. Un 26e joueur appelé en bleu, est-ce que ça signifie qu'il faut s'inquiéter pour la santé de Benzema par exemple? Et puis laissez-vous tenter dernière quand un prix Goncourt, Cyril Lignac et d'autres écrivent pour les Restos du Cœur. À tout de suite sur RTL.
Julien Cellier,
RTL Soir jusqu'à 19h15.
C'est bien.
RTL.
Bonne fin de journée, 18h31.
RTL Soir.
Julien Cellier, Marion Calais.
Et RTL Soir vous informe les 3 actus à retenir en cette fin de journée avec vous, Marion Calais.
La contre-attaque du député insoumis Louis Boyard après son passage houleux sur le plateau de Touche pas à mon poste la semaine dernière. Il va porter plainte pour injure publique contre Cyril Hanouna qu'il a traité notamment de tocard pour avoir critiqué le patron de la chaîne Vincent Bolloré. Achille Tigheim, près de Strasbourg, la fermeture annoncée dans les 3 ans du site du brasseur Heineken. 220 emplois sont menacés. Et puis, une victoire importante, les mots du président américain Joe Biden sur la reprise de Kherson par les troupes ukrainiennes. En visite sur place, Volodymyr Zelensky a assuré qu'il est impossible de tuer l'Ukraine.
Merci Marion. Le temps pour demain, Louis.
Retour de la pluie, encore une fois, une nouvelle perturbation va traverser la France comme celle d'aujourd'hui, d'ouest en est, le matin dans l'ouest, au centre en milieu de journée et sur les frontières de l'est en soirée, le tout avec du vent assez fort près de la Manche, un peu de neige en montagne quand cette perturbation arrivera sur les reliefs à partir de 2000 mètres et puis les températures, à peu près comme aujourd'hui, hein, l'après-midi, 12 à 14 degrés dans la moitié nord, 15 à 19 dans le sud.
Merci Louis.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
Et les dessous de la Coupe du Monde même. Chaque jour après 18h30, nouveau rendez-vous jusqu'à la finale qui sacrera, on l'espère, les Bleus le 18 décembre au Qatar. En attendant, on va s'inquiéter pour nos champions et leur santé à 6 jours du coup d'envoi de la compétition. On file à Clairefontaine au bord du terrain d'entraînement. Rejoindre Philippe Sanfourge. Bonsoir Philippe.
Bonsoir.
Clairefontaine où les Bleus sont réunis depuis ce matin, Philippe, avec donc deux invités imprévus de dernière minute.
Oui, qui viennent de s'entraîner d'ailleurs sous nos yeux pour la première séance de cette avant-coupe du monde. Axel Disasi et Marcus Thuram. Alors, Axel Disasi, c'est un défenseur hein, monégasque, 24 ans. Il n'a jamais été appelé en bleu. C'est un pur novice hein, qui va devoir suppléer Presnel Kimpembe, forfait deux dernières minutes, non remis totalement de sa blessure au tendon d'Achille. Ça, c'est un vrai coup dur, un de plus pour Didier Deschamps. Et puis, on le disait, Marcus Thuram, attaquant, il a été appelé ce matin par le sélectionneur. Mais là, c'est pour compléter en fait la liste des attaquants.
Alors, Thuram appelé devant, est-ce que ça signifie qu'on s'inquiète pour la santé d'un Karim Benzema, par exemple ?
Ah ben alors oui, hein, c'est le premier réflexe qu'on a pu avoir dès ce matin. Sinon, pourquoi ne pas avoir appelé Thuram dès mercredi dernier ? Didier Deschamps a démenti fermement cet après-midi toute nouvelle inquiétude au sujet de Karim Benzema, qui d'ailleurs est en train de s'entraîner hein, toujours en ce moment. Il est avec le préparateur physique Cyril Moine en compagnie de Raphaël Varane. Varane, Benzema, ce sont vraiment les deux cadres sur lesquels planent encore des doutes hein, sur leur état de santé et leurs conditions physiques à moins de 48 heures du départ.
Donc ils seront 26, alors qu'on sait qu'initialement Deschamps voulait éviter un groupe élargi. Est-ce que ça traduit une forme de doute sur l'état de forme général des troupes hein ?
Oui, c'est assez évident. Hein. Le sélectionneur a beau nous dire maintenant qu'il avait prévu de prendre un 26e joueur, qu'il préférait attendre le...
Et ben voilà, ça c'est la joie du direct. On a une petite rupture de faisceau avec Clairefontaine. Pourtant, c'est pas très loin, hein, Clairefontaine. C'est en région parisienne, pas très loin des studios de Neuilly-sur-Seine. Mais vous l'avez compris, on s'inquiète pour la santé de nos Bleus et on va suivre leur état de forme avec attention dans les 6 jours maintenant qui nous séparent du coup d'envoi de ce mondial. On remercie Philippe Sanfourge, donc depuis le terrain d'entraînement des Bleus.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
À 18h34.
Laissez-vous tenter, dernière.
Et quand les écrivains maintenant se mobilisent pour les Restos du Cœur, pour la 9e année consécutive, vient de paraître le recueil de nouvelles 13 à table vendu au profit de l'association créée par Coluche. Bonsoir Bernard Lehu.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Et les lecteurs sont au rendez-vous depuis 9 ans.
L'achat d'un livre à 5 euros permet de financer 4 repas. Les 8 premiers tomes ont ainsi permis de distribuer près de 7 millions de repas. Alors parmi les auteurs qui signent bénévolement l'une des nouvelles composant le 9e volume de 13 à table figure la romancière Françoise Bourdin, présente depuis la toute première édition.
Exactement, j'adore cette aventure. Nous y avons vu l'opportunité de pouvoir faire quelque chose de fort, pas chacun dans son coin, son petit geste, son petit don, que à nous tous, dans cette aventure-là, on allait faire quelque chose qui allait vraiment avoir de la signification et qui permettrait de faire une très belle action. Franchement, 5 euros pour un livre de poche où chacun peut trouver son auteur préféré, c'est formidable.
Autre écrivain participant à 13 à table, Romain Puertolas, l'auteur du best-seller L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea.
J'ai jamais trop cru que l'écrivain pouvait changer des choses dans la réalité. Et pour une fois, j'ai eu l'impression que ce que j'écrivais pouvait avoir vraiment cette emprise sur le réel. Et c'est pour moi un grand bonheur de faire partie, on va dire, de ces enfoirés écrivains. Il y a les chanteurs, il y a les acteurs. Et puis, il ne faut pas oublier aussi les auteurs, puisque les Restos du Cœur nous ont donné l'opportunité de devenir nous aussi des enfoirés. Et faire partie de cette grande aventure, ça, c'est quelque chose de merveilleux pour moi. C'est magique.
Des enfoirés écrivains, Bernard. Et un invité exceptionnel pour ce 13 à table cette année.
Mais oui, Thomas Pesquet qui signe la préface donc de ce recueil. Riyad Satouf, quant à lui, dessine la couverture. Son héroïne Esther, en combinaison de spationautes, flotte dans l'espace, un livre à la main. Alors si l'ouvrage est collectif, le travail des auteurs reste individuel.
On est sollicité chacun de notre côté et on ne sait pas du tout ce que font les autres. Ça, c'est bien aussi pour nous la surprise. Moi, j'ai toujours la surprise de lire les nouvelles des autres. Et donc voilà, ça c'est bien. Donc c'est un travail ensemble, seul ensemble.
Et chaque année, un thème est imposé aux écrivains d'ailleurs.
Pour la 9e édition, La planète et moi. Chez Françoise Bourdin, ça donne une nouvelle intitulée La binette. Alors comment prend-elle, c'est celle du jardinier, hein, La binette, comment prend-elle cette contrainte d'un sujet de commande?
Comme un jeu, on vous met au défi de créer vite quelque chose qui n'est pas dans vos thèmes de prédilection. Et ben, je trouve que c'est bien. Ça fait travailler encore davantage l'imagination. Et puis, c'était aussi le moyen justement... C'est-à-dire que dans une famille, on n'est pas toujours tous d'accord. L'écologie est un sujet dont on parle régulièrement. Inutile de vous dire qu'on en parle aussi en famille. Ça fait des discussions très intéressantes. L'intérêt, c'est qu'elles ne s'enflamment pas trop.
13 à table est édité chez Pocket. 5€ au profit des Restos du Cœur.
Allez, courez l'acheter. Les lecteurs sont sans aucun doute encore une fois au rendez-vous cette année. Merci beaucoup Bernard. Pour l'heure, nous sommes 6 à table parce que le trio Dondé fait le monde nous rejoint dans RTL Soir. Cyprien Sini, Nerissa Emmanier et Laurent Tessier. Bonsoir à tous.
Bonsoir
les trois.
Bonsoir à tous.
Cyril Hanouna insulte un député à la télé. Que risque-t-il? Peut-on insulter d'ailleurs un élu de la République comme on insulte son voisin? On va se poser la question juste après ça.
Mais c'est pas bien d'insulter son voisin.
Non, c'est pas bien.
Non.
On défait le monde dans RTL Soir.
Lidl,